Isère Classique, le magazine musical de RCF Isère, présenté cette semaine par Éric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Cyprien Arlot, bonjour.
Bonjour Éric.
Gérant du domaine Arlot, à Moret-Saint-Denis, vigneron mais également mélomane.
Tout à fait, modestement, mais effectivement je suis ravi d'être là aujourd'hui.
Alors modestement, mais vous savez reconnaître, pour moi, immédiatement l'essentiel dans une interprétation, sans être influencé par la célébrité des artistes ou leur reconnaissance médiatique, souvent usurpée. Il est rare que l'on sache vraiment écouter la musique comme vous le faites, l'assimiler de façon physique et intellectuelle. Est-ce l'une des raisons de votre engagement auprès d'un pianiste, Jean-Claude Van den Heyden, dans un programme Schumann Liszt, enregistré à côté de chez vous, à Vosne-Romanée, à la Goyotte, du domaine de la Romanée-Conti?
Écoutez, oui. C'est vrai que ce qui est très important pour moi, c'est que j'ai eu des émotions que je n'avais pas jusqu'à maintenant connues, même dans mon métier, que je fais avec passion, à travers la musique. Et Jean-Claude Van den Heyden est vraiment un très grand pianiste que vous m'avez fait découvrir, que j'ai été très honoré, je dirais modestement, de contribuer à cet enregistrement qui est pour moi magnifique et que je redécouvre chaque jour un peu plus en l'écoutant.
Vous avez écrit un texte dans le livret du disque. Je vais en lire une petite partie. La vie est parfois faite d'émotions intenses et de sentiments inoubliables. Je n'ai de cesse de découvrir les plaisirs immenses et troublants que peut nous offrir la musique d'un compositeur prodigieux, magnifiquement révélé grâce aux interprètes de l'excellence. Et vous terminez. Et si le vin me raconte une histoire, c'est bien cette musique que j'aime à boire. Cyprien Arlot, est-ce que vous pourriez nous développer tout ça ?
C'est très personnel, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon métier, je fais un vin. Ce vin, physiquement, on peut le voir, on peut le faire tourner dans son verre et le sentir et le déguster. La musique, pour moi, c'est encore une autre dimension. La musique, finalement, elle a exactement les mêmes critères d'appréciation. On peut voir ces musiciens, si on a la chance de les voir en représentation, mais surtout, on peut les percevoir, les ressentir et surtout s'en imprégner et vibrer. Comme finalement peu d'art aujourd'hui peuvent le procurer ce type d'émotion.
À votre avis, est-il plus facile pour un vigneron d'écouter de la musique ou pour un musicien de boire du vin ?
C'est une bonne question. Moi, je sais que ça, c'est pas quelque chose, j'aurais tendance à dire, d'inné. Si on peut ressentir effectivement et vibrer avec certaines interprétations, certaines grandes musiques, belles musiques. Je pense que ça demande aussi de se mettre dans un état afin d'être réceptif et d'avoir tous ses sens en éveil pour percevoir l'excellence.
Je propose que nous écoutions le début de la sonate de Liszt qui figure dans le programme du disque dans lequel vous vous êtes engagé, Cyprien Arlot.
Thank you.
le critique de la revue La Nef, Hervé Penven, écrivait à propos de cette interprétation à laquelle il a décerné un CD d'excellence, Jean-Claude Van den Heyden, pianiste discret parce que grand musicien, enregistre la sonate de Liszt. À entendre son interprétation, on se demande si celle-ci n'est pas trop souvent surjouée, si elle n'a pas été victime d'une erreur de perspective, car si la virtuosité est assurément bien présente, elle n'est ni essentielle ni à souligner. Jean-Claude Van den Heyden fait entendre que ce n'est pas une œuvre ultra-romantique, oscillant entre violente fureur et sentimentalisme de salon, ou chez certains entre éclat spectaculaire et passage à vide. Ici, tout est grand, profond, tout est habité. Rien n'est sentimental, tout est poétique, voire religieux. Voilà pourquoi, bien que tous les grands pianistes aient enregistré cette sonate, l'interprétation de Jean-Claude Van den Heyden s'avère nécessaire. Lui seul ne fait aucune concession à une brillante virtuosité que Liszt lui-même n'a pas voulu pour elle-même. J'ai l'impression de boire un grand cru du domaine Arlot.
Écoutez, je prends le compliment. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est une belle critique qui a été mise sur cette superbe interprétation. Et c'est vrai que la profondeur, toute cette part de sentiment, effectivement, on peut probablement la rattacher à un côté religieux, mais en tout cas tout à fait spirituel, vibrant. C'est une musique qui est juste magnifique. Voilà, un grand compositeur, un grand interprète. Et puis, il va s'opérer cette magie. Pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et surtout, ce qui est stupéfiant, c'est que finalement, plus je vais écouter ce morceau, et finalement, plus il va m'émouvoir. Et ça, je crois que peut-être c'est ce qu'on peut rêver sur un grand cru. Effectivement, c'est si un certain jour, un certain moment, vous avez éprouvé une certaine émotion avec ce vin, si ça peut se produire une deuxième fois, une troisième fois, alors à ce moment-là, vous arrivez à un but qui est juste magnifique.
Pourtant, le vin se partage à plusieurs. On communique instantanément nos impressions à l'autre. On bavarde beaucoup. On a cette nécessité. La musique s'écoute seule. Que représente cette différence? Pour boire du vin, on a besoin de l'autre. Et pour écouter de la musique, on a besoin de soi.
Oui, mais malgré tout, même si on est dans ce partage, dans ce moment de convivialité avec le vin, je pense que pour ressentir la vibration d'un vin, il faut être très concentré sur son propre ressenti et justement pas se laisser influencer par le ressenti de l'autre. Et si un vin a ce niveau de vibration, il sera perçu par les uns et les autres sans se parler, voilà, sans rajouter, c'est quelque chose... Ça fait partie de cette nature qui n'a pas toujours besoin d'émettre des bruits, des sons. On peut se comprendre, on peut ressentir exactement les mêmes choses, voilà, simplement par ce niveau de vibration qu'on aura dans un vin. Et je pense qu'en ça, parfois, le vin est un petit peu, perd un petit peu de son âme avec beaucoup de paroles autour d'un vin, alors que finalement, le vin peut se partager voilà, sans cacophonie.
Néanmoins, il est beaucoup plus facile de mettre un disque seul que d'ouvrir une bouteille seule.
Oui, ça c'est vrai.
Culturellement déjà.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a vraiment, pareil, cette notion de partage. Je pense qu'avec un disque, on a... Moi, je le vois aujourd'hui, j'ai des enfants et la musique, ça se partage aussi. Voilà, on peut être plusieurs à écouter et vivre ce même moment de partage, de compréhension, s'éduquer les uns les autres. Voilà, chercher à comprendre pourquoi on perçoit chez quelqu'un un certain sentiment par rapport à une musique et puis essayer de rentrer, de partager ça. Il y a ce même partage et dans une représentation, on peut ressentir ce partage dans un public. Des fois, ça peut être très fort, beaucoup plus fort qu'autour d'une table avec un vin.
Dans ce disque, il y a également la fantaisie de Schumann. Franz Liszt a dédié sa sonate à Schumann et Schumann a dédié sa fantaisie à Franz Liszt. Je vous propose que nous écoutions le premier mouvement de la fantaisie opus 17. Le critique musical Hervé Penven écrivait à propos de cette interprétation. Sens du chant, grande subtilité du toucher des nuances, fluidité du jeu, clarté qui fait tout entendre de la partition. Cyprien Arlo, avez-vous la définition d'un vin parfait? Ce vin, l'auriez-vous déjà rencontré? L'auriez-vous déjà croisé? L'auriez-vous déjà élaboré? Ou est-ce simplement une sorte de fantasme, une sorte de projection intellectuelle à jamais inatteignable? Comme d'ailleurs pour une interprétation musicale.
Oui, je crois qu'on a ça en commun, c'est que la perfection n'existe pas. Et pourtant, je pense que dans les deux disciplines, il y a cette recherche de perfection. C'est très intéressant parce que pour moi, récemment, avec des millésimes comme 2019 et 2020, j'ai eu le sentiment, après une vingtaine d'années d'expérience, de percevoir dans certains vins une esquisse de perfection. Qu'est-ce qui m'a amené à penser ça? Effectivement, c'est d'arriver à un vin qui a une fluidité, une subtilité. Et c'est très intéressant de voir ces qualificatifs apparaître aussi pour cette fantaisie qui est juste magnifique. C'est qu'on est dans cette fluidité. Pour moi, la perfection d'un vin, si elle devait exister, elle est dans ce vin qui est fluide. Et pour arriver à cette fluidité, vous avez un respect du sol, un respect de la plante, une compréhension de l'ensemble. Avec une idée précise de faire un vin qui va vous amener à cette fluidité parfaite.
Vous avez des affinités avec certaines œuvres qui vous touchent plus que d'autres, mais est-ce qu'également, vous, dans vos parcelles, vous avez des affinités physiques, mentales, spirituelles? Alors, la spiritualité, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas la définir, mais quand je la crois, je la reconnais. Est-ce que vous, dans vos parcelles, il y a des endroits vous vous sentez mieux que dans d'autres?
Oui, tout à fait. Je pense que ça commence par là, ça commence par le ressenti. Pour ceux qui connaissent un petit peu mieux la Bourgogne, je vais prendre un simple exemple. Vous avez un premier cru qui se situe à Moret-Saint-Denis, qui s'appelle un premier cru Moret, premier cru Les Ruchaux, et qui combine à lui-même tout ce qu'on peut avoir de ressenti sur un climat historique de Bourgogne, qui est un lieu, qui est quasiment un clos, qui a un microclimat particulier, une localisation particulière, et quand vous êtes là, vous êtes comme le pied de vigne, vous avez à vous imprégner de tout ce lieu, de tout cet univers, et vous ressentez, voilà, donc si ça, c'est en résonance avec votre âme, vous allez avoir ce ressenti, ce lieu, cette affection, et peut-être un rapport donc très subjectif, mais plus subtil avec ce vin.
On parle souvent de la qualité du silence dans la musique. On dit que quand les notes de Mozart se sont tues, le silence est de Mozart. Dans vos vignes, il y a un silence également. Est-ce qu'il y a une qualité de silence équivalente? Et comment vous définissez ce genre de silence?
Le silence, oui, il est... Alors, dans la nature, on a pour habitude de dire que le silence n'existe pas, parce que il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un micro-organisme qui travaille, il y a toujours un insecte qui se déplace, il y a toujours une brise de vent qui est là et qui souffle. Mais si tout ça fait une mélodie, on a effectivement aussi cette notion de silence. C'est le silence qui va nous faire prendre conscience des choses les plus subtiles. Si ce silence, on l'interprète uniquement comme une période où il y a du bruit, où il n'y a pas de bruit, c'est encore plus subtil que ça. Le silence, c'est un focus, c'est un rapport direct qu'on a avec un lieu qui se fait avec un silence que vous faites intérieurement ou qui vient du lieu, qui vous impose ce silence, voilà, spirituel.
Nous allons quitter le silence et écouter le deuxième mouvement de la fantaisie de Robert Schumann. Thank you. Deuxième mouvement, la fantaisie de Robert Schumann, interprété par Jean-Claude Van den Heyden. Disque enregistré à la Guayotte, à Von Romane, et protégé, engagé par le domaine Arlot et Cyprien Arlot. On change un peu de registre. Depuis que les vins bourguignons ont acquis une valeur commerciale devenue incontrôlable, et ça c'est une réalité qu'il ne faut pas nier, nombre de vignerons accompagnent cette nouveauté par des discours sur leur quête artisanale, artistique, avec souvent des phrases incohérentes dont ils ne comprennent pas eux-mêmes le sens. Vous êtes toujours en retrait de cette communication inflationniste. Puis-je considérer que vous ne souhaitez pas y adhérer ? L'histoire, la transmission n'ont jamais autant existé dans les discours et aussi peu dans les pensées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ?
Aujourd'hui, la Bourgogne n'échappe pas à des phénomènes de, on peut dire des fois spéculatifs, ou en tout cas un intérêt très accru de beaucoup de gens ou de gens très, très fortunés. La Bourgogne, comme d'autres refuges, je dirais. Après, aujourd'hui, quand vous êtes vigneron en Bourgogne, vous avez déjà cette quête de faire un grand vin. Vous avez la complexité de devoir jouer avec les éléments naturels, et puis votre environnement, et puis votre époque. Voilà, donc aujourd'hui, ça peut être un paramètre de plus en plus important avec lequel il faut savoir jouer, s'adapter pour pouvoir évoluer et pérenniser notre métier.
Je vais continuer à vous embêter, Cyprien Arlot. Nous avons eu Alain Meunier ici comme invité, et nous avions abordé un sujet qui le passionne, mais à l'envers, au sujet de l'élévation, puisque nous avons parlé de Gauthier Capuçon, qui mettait en avant le fait de jouer sur le Mont Blanc, sur la neige, de s'élever, de jouer en haut de la Tour Eiffel, sur les ailes d'Airbus, un peu le Benny Hill du violoncelle. Et nous avons des vignerons qui vont faire du 4x4 à Courchevel, c'est à la mode, qui vont boire dans des chalets à 2500 mètres, un peu dans des sortes de beuveries consanguines. Moi, j'ai l'impression que plus on monte, et plus ça vole bas. Sans vouloir vous mettre en porte-à-faux avec vos collègues, évidemment.
Alors chacun est libre de trouver son champ d'expression. Moi, je sais que ce qui est très important, si l'on veut que cette Bourgogne perdure, aujourd'hui, elle a la chance de vivre sur un héritage et d'être prospère, parce qu'il y a eu toute une démarche spirituelle, il y a eu tout un travail de fait, et que ce n'est pas éternel. Donc, effectivement, si à un certain moment, on n'a pas conscience que rien n'est acquis et que l'on doit aussi, nous, apporter notre pierre à l'édifice, bah, cette Bourgogne perdra un peu de son âme. Moi, c'est très important que aujourd'hui les domaines qui tiennent encore, on va dire, les valeurs profondes de cette Bourgogne soient des domaines que je respecte, parce qu'il y a eu ce travail de fait. Et je souhaite, moi, de tout cœur, que la suite soit au même niveau, avec le même esprit.
Y a-t-il pas néanmoins une nouvelle temporalité dans la Bourgogne, à savoir que pendant des décennies, les vins n'étaient pas faits pour être forcément bu immédiatement. Aujourd'hui, le vin doit être bon tout de suite, d'abord parce qu'il est cher, et est-ce qu'on peut demander à des buveurs d'acheter des bouteilles à des centaines d'euros et d'attendre 20 ans pour les boire ? C'est plus possible. Ce qui existait il y a 20-30 ans a évolué, et est-ce que la pensée et l'attitude du vigneron n'est pas aujourd'hui dépendante de ça ?
Aujourd'hui, c'est important de savoir pourquoi vous faites ce métier et ce que vous cherchez. Et à partir de là, vous aurez en face un succès ou en tout cas un public qui vous correspondra. Aujourd'hui, je pense que quand on est capable ou en tout cas attentionné pour avoir le plus grand respect pour ces vins qui ont fait la notoriété de la Bourgogne, l'on peut être en mesure de trouver un public qui sera prêt, pour certains, à faire ce sacrifice d'un temps, parfois 10 ans, attendre avant de consommer ce vin, si le vin est à la hauteur, si la dimension du vin est là. Et ce qui est très important, c'est de ne pas être déçu. La déception, elle ne doit pas exister aujourd'hui. Donc rien n'est parfait, c'est vrai, mais c'est cette recherche de satisfaction et d'exigence qu'on doit être en mesure d'apporter au prix auquel sont les vins et au niveau des attentes de ceux qui vont faire le sacrifice de mettre un certain prix dans une bouteille ou en tout cas d'attendre un certain temps.
On parlait de la contradiction de l'effacement du vigneron. et finalement de sa présence surdimensionnée. Il y a peut-être une autre contradiction. Vous aimez hiérarchiser les millésimes et décliner vos affinités avec les plus riches ou les moins riches, mais dans un grand vin de terroir, le millésime devrait être un fait divers, quelque chose, une baliverne. Or, plus le millésime est ambitieux, et plus le terroir est sublimé. Là aussi, il y a quand même une grande contradiction dans l'attitude des bourguignons, dans leur discours.
Le discours est une chose, je ne sais pas si le vigneron est le mieux placé pour parler ou pour qualifier son travail et quelle est la différence entre un grand millésime. Ça, c'est quelque chose, je dirais, sur lequel on ne devrait pas s'aventurer quand on fait un vin. Mais par contre, moi, j'ai personnellement conscience que certaines années, on a un champ d'expression parfois beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que d'autres années. Et malgré tout, chaque année, j'ai l'impression d'avoir un champ des possibles encore plus important que l'année précédente, probablement parce qu'on a des acquis et probablement parce qu'on a pareil un ressenti qui s'amplifie, l'envie de faire mieux chaque année. Moi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que, voilà, une fois de plus, si vous allez un jour ressentir une émotion dans un vin, peu importe le millésime, je dirais, que vous puissiez de nouveau ressentir cette émotion, que ce soit un millésime, un petit ou un grand millésime.
Cyprien Allot, je vais vous demander d'être très honnête sur cette question. Question fondamentale, la plus grave de nos entretiens. Au sujet de tous ces paradoxes, Jean-Yves Bizot est venu il y a quelques mois. Il nous faisait part de ses doutes, des doutes constants qui le rongent, et jusqu'à un transfert vers une sorte d'angoisse. Il s'entoure d'une quête avec des réflexions qui sont constamment irrésolues. Et pour trouver la parade, il nous expliquait à ce micro, pour s'en désintoxiquer, qu'il lisait Tintin et Milou et les mémoires de Michel Sardou. Et vous, quel est votre secret ?
Moi, mon secret, c'est de réussir toujours à voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que quand vous faites un vin, effectivement, vous pouvez être parfois oublier la vraie vie, voilà, et être complètement accaparé par cette quête. Et c'est en permanence des choix qui ne sont pas forcément faciles à faire, mais qui sont des choix humains. Et aujourd'hui, quand vous avez terminé votre journée, si dans votre journée, vous n'avez pris que des mauvais choix pour le vin, s'il y a un seul choix qui pour vous vous a satisfait, c'est là-dessus qu'il faut construire pour le jour d'après. Aujourd'hui, on est des hommes, il y a des millésimes, des hommes et des femmes, on a des millésimes qui peuvent être parfois très compliqués, on peut échouer sur certains choix, mais il suffit d'une chose positive pour s'accrocher, pour le jour d'après être meilleur et oublier toutes ces contradictions qu'on peut avoir. La vie, c'est pas quelque chose de simple. Voilà, faire un vin, ce n'est pas simple. Faire une grande musique, c'est encore plus compliqué. Pour y réussir, il faut être bien. Voilà, il faut être bien dans sa vie, bien dans sa passion. Et pour moi, je dirais, c'est aujourd'hui voir la vie du bon côté et être conscient du bonheur qu'on a à évoluer dans ces univers.
Et puis vous avez aussi la faculté de pouvoir rebondir, parce que quand vous écoutez un musicien, s'il fait une fausse note, il a fait la fausse note. Par contre, quand on boit un vin avec Cyprien Arlot, s'il y a un petit défaut, s'il y a quelque chose, c'est pas, vous dire, il est dans une phase ingrate de son évolution, il demande à vieillir un peu. L'attitude n'est pas la même.
Oui, après, c'est bien de reconnaître aussi ses erreurs. Je pense que...
On est beaucoup plus clément face à la bouteille que face à l'instrument.
Oui, ça dépend de quel côté on se place. Mais je pense que voilà, ce qui est important, c'est de percevoir parfois un sentiment. Qu'est-ce qu'on a au bout de tout ça ? Il y a peut-être parfois des imperfections sur la route. Mais in fine, qu'est-ce qu'on ressent ? C'est ça le plus important. Et puis... savoir donner une seconde chance, parce que si on est bon foncièrement, le jour d'après, on saura s'améliorer.
Peut-être que cette course à la perfection est illusoire, et que finalement, la vérité de votre métier, c'est de faire des vins imparfaits.
C'est faire des vins en ayant le plus grand respect pour la nature. Voilà. Et cette nature, parfois d'apparence humaine imparfaite, voilà, nous donnera les meilleurs résultats. Et moi, je pense que ce qui, aujourd'hui, me donne cette sérénité, c'est ce respect profond pour la nature, ce respect profond pour l'univers. Et je suis persuadé que les fabuleux morceaux qu'on a écoutés aujourd'hui, interprétés et composés, sont aussi reliés et tirent une part de leur succès par rapport à ce respect, cette connexion pour le naturel.
Nous allons nous quitter donc avec le troisième mouvement de la fantaisie de Robert Schumann. Cyprien Arlot, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite dans nos studios de RCF.
Un vrai plaisir, merci.
Merci.